Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Mouloud Achour et vous écoutez ClickX en podcast. ClickX, c'est une série de conversations avec des personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer au fil des années pour un échange longue durée. Tous les épisodes de ClickX sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Click, c'est quand vous voulez sur MyCanal et le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec Benoît Poulvord.
Alors, amis téléspectateurs, ne soyez pas surpris. Ne réglez pas votre téléviseur, j'ai un petit peu pris dans la gueule. Donc, c'est pas votre télé, c'est moi.
Ça va ?
Ça va, je suis fatigué, ouais.
Et déjà, je tiens juste à te dire un truc, c'est que je t'aime.
Merci, c'est gentil.
Mais vraiment.
C'est cool de me dire ça le matin.
Inconditionnel pour toi et pour ton
travail. Gentil.
Ouais.
Je suis très content. C'est agréable d'être interviewé.
Ouais, voilà.
Dans des conditions pareilles. Imagine-toi que tu m'as dit je te déteste, sale con.
Non, non, non. Oh, tu dois pas t'en souvenir, mais la dernière fois que je t'ai croisé, c'était un
soir. C'est dans une boîte, non ?
Ouais, exactement.
On a parlé de Jackie et Michel. Non ?
Non, non. Enfin, c'était dans une boîte, c'était très tard. Et je te jure, c'était un des moments où j'étais le plus bas dans ma vie. Et tu m'as attrapé dans tes bras et tu m'as dit, tu sais, la tristesse, il faut savoir vivre avec.
Ah bon, c'est vrai ?
Ouais.
Ça va mieux ?
Ouf.
Il faut aller un petit peu moins sur Jackie et Michel.
Mais non. Et alors déjà, c'est pour le film Saint-Amour, la performance que tu as délivrée dedans, je voulais savoir à quel point t'avais préparé le rôle, ou t'étais beurré,
non.
Ou t'étais...
Préparer le rôle avec des épines, non. Je savais pas que papa allait être Gérard. Et ensuite, non, je crois que j'ai rien préparé du tout. Alors, la question que les gens vont se poser, c'est quel est mon degré d'ivresse dans le film.
Non, je dirais plutôt de tristesse, moi.
Ah, de tristesse, si,
pour moi, c'est pas un film sur l'alcool.
Non, pas du tout, non. C'est plutôt sur la solitude.
Ouais.
La difficulté d'être un garçon de mon âge et ne pas savoir communiquer ni son désir, ni sa place dans la société. On a tourné 3 jours à la foire agricole.
Ouais.
Comment vous appelez ça en France ? Vous appelez ça la foire agricole ?
Foire agricole, ouais. Ouais, selon l'agriculture. Ouais.
Et on n'avait aucune permission. Donc, il faut imaginer, il y a 20 000 personnes. Et on décide de partir avec Gérard. Et on a fait ça sans aucun garde-fou. Donc il faut imaginer, quand je dis pas de garde-fou, c'est-à-dire, c'est pas tant qu'il faille des... Tu peux pas mettre des barrières pour séparer les acteurs. Non, t'es dedans. Alors, et le deuxième garde-fou, c'est que tout le monde te donne à boire. Tu vois ? Tout le monde te propose à bouffer, à boire. Alors t'imagines Gérard. Et il passe devant un stand, ou moi, c'est tout de suite, viens goûter notre truc,
mais
goûter
notre truc.
Donc, la seule prépa, qui est à mon avis la meilleure que j'ai jamais pu avoir, c'est les 3 jours à la foire agricole. Et on avait dit, si ces 3 jours ne passent pas, si on n'y arrive pas, puisque c'est vraiment l'inconnu, hein, c'est à l'arracher, en sachant que les mecs sont de plus en plus bourrés à mesure que la journée avance, et qu'il n'y a aucun endroit qui nous est mis à notre disposition pour se cacher ou pour discuter. Non, t'es avec les amateurs de la foire agricole. Et à mesure que la nuit avance, c'est l'apocalypse.
Je reviens sur le fait que c'est pas du tout un film sur l'alcool, ni sur l'ivresse. Parce qu'il y a pour moi, t'as dedans la scène, une des plus belles scènes dans lesquelles je t'ai vu au cinéma, depuis que je te vois faire du cinéma, c'est quand t'es avec... Et c'est pour moi, c'est la scène d'amour la plus triste que j'ai vue. C'est quand t'es avec une fille et que tu lui dis, dis-moi des mots d'amour, dis-moi des mots gentils pour qu'elle t'excite.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Ça, c'est...
Il y a ça qui, moi, je trouve très triste aussi, et puis la fille qui fait semblant de pas te reconnaître. En fait, grosso merdo, mais on n'en a jamais parlé avec le réalisateur. Il est puceau, quoi. Il est puceau à 50 ans parce qu'il est maladroit. Et donc, je suis à côté de Vincent Lacoste qui, lui, tu sens qu'il a déjà attrapé la moitié de la planète. Et ce qu'il y a de plus tragique, c'est que même si mon père qui essaye de m'aider à rencontrer une âme sœur, même les petites préfèrent mon père parce qu'il est plus rassurant. Moi, je suis comme un enfant égaré. Et ouais, c'était. Mais même ça, c'était très émouvant à faire, quoi. Même quand mon père me parle, puis je fais un truc comme ça tout le temps, comme les petits garçons qui sont. Tu ne sais pas bien exprimer tes trucs, mais c'était drôle.
Mais qu'est-ce que tu vas chercher quand tu sors une scène comme ça ?
Parce que, tu sais, c'est un peu comme pour tout le monde. Tu dis, dis-moi quelque chose de gentil. Regarde, tu as commencé l'entretien en me disant quelque chose de gentil.
Oui, mais tu m'as pas demandé.
Non, je te l'avais pas, parce que je ne demande plus. Sinon, je pense que ça doit être ça, c'est que tu me dis, ça m'aidera T'oses pas le demander, comme la majorité des gens, tu vois. Ils disent, j'aimerais tellement... Mais même dans la vie, tu sais, tu croises les gens le matin, tu te dis, il y a tellement de... C'est comme le dessin de Sampé. Moi, je suis un passionné des gens qui attendent aux arrêts de bus. Ça paraît ridicule. Je pense que ça vient de Sampé, mais je pourrais raconter une histoire rien qu'en regardant quelqu'un assis dans un arrêt de bus. Si tu me laisses 5 minutes... Je regarde le type à l'arrêt de bus et je peux lui construire une vie parce qu'il y a quelque chose de tellement... comment dirais-je c'est pour répondre à ta question, hein, il se dégage des gens qui attendent le bus. Tant de vie, tout, y a chaque vie est différente, tu vois. Donc t'as un type qui est là, si tu regardes son sac, c'est presque de l'anthropologie ou de la sociologie, si tu veux, mais tu regardes comment il a mis son sac, tu regardes qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde pour faire passer le temps. On ne veut pas rester dans l'arrêt de bus. On sait qu'on y est parce que c'est un passage qui va nous amener à l'endroit où on voudrait rester et être en sécurité. Donc il y a quelque chose d'insécurisant dans l'arrêt de bus, et pourtant tout le monde le prend tous les jours. Eh bien moi, voilà, pour répondre à ta question, je peux faire des séquences comme ça parce que j'ai vu des gens qui m'ont ému. Voilà, je m'invente des films en regardant les gens qui arrêtent le bus, c'est une manière de dire, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a tellement, on a tant de vécu en nous, tant de choses qu'on se dit... Ah, c'est pas facile quand même. Mais on doit se construire une armure, quoi. Donc on se construit un être qui va vivre avec l'autre, avec d'autres êtres. Et l'arrêt de bus, c'est un endroit, voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est en observant des gens dans les arrêts de bus, ou à la gare, ou dans les stations de pompes à essence. On m'avait demandé un jour, hein, donnez-moi une destination. C'était, je crois, un journal, genre, je sais pas, une VSD, un truc comme ça. Qui m'a demandé, je vais essayer pour les vacances une destination. J'ai dit, je voudrais l'arrêt de bus, c'est pas un arrêt de bus, l'aire de stationnement, la pompe à essence, d'Asvilliers, qui se trouve entre Bruxelles et Paris. Alors les photographes, ça les fait chier, parce qu'en fait, normalement, t'as une... Tu vois, si j'avais dit les Maldives, bon, bah, ils vont chercher un crédit d'image, ils vont chercher une pauvre photo des Maldives. Et alors là, le journal, il est super emmerdé, parce qu'il dit, merde, il a bien dit Asvilliers, quoi. Donc ils ont dû envoyer un photographe de VSD photographier la pompe la moins belle du monde. Donc il y a un mec, parce que j'ai rencontré le photographe qui m'a dit, à cause de toi, j'ai dû me taper aller-retour à Asvilliers, c'est impossible à photographier. Je dis, eh ben voilà, au moins tu auras fait quelque chose de bien, parce qu'un con qui photographie les Maldives, ça c'est Getty Images. Tandis que toi au moins, crée des photos, Jacques Pougnier, tu vois.
Je te disais, je t'aime au début parce que je sens...
Parce que tu vas me demander du fric.
Pas du tout, pas du tout.
Ça finit toujours comme ça.
Et je sais que je suis un peu comme ça. Ça fait partie des mots les plus compliqués à encaisser quand on les entend.
Oui, parce que c'est galvaudé. C'est pour ça que j'aime bien chez les Anglais. Ils disent « I like »,« I love ». Et en ce moment, je tourne avec un Indien. Et je fais toujours très attention de dire « I like you ». Parce que je me dis, je sais pas si dans dans leur culture, dire « I love you » ne va pas les heurter. Ou... Donc je dis « Alors faites très attention, je ne parle pas bien l'anglais, alors vraiment pas. » Et chaque fois, je dis « I love you », non, « I like you, pre-dance, pre-dance. » Et... Oui, c'est difficile, hein, qui sait, t'as raison. Parce que... c'est difficile, ouais. Mais en même temps, ça fait tellement de bien. C'est comme une poussée dans le dos, c'est interdit au vélo, au cycliste. Tu sais, quand tu montes le galibier... Beaucoup de coureurs disent, ce qui est extraordinaire, quand ils sont poussés dans le dos, ils ne peuvent pas. Hein. Donc le coureur est obligé de dire « Non, non, non !» Et en même temps, il dit « Pousse, pousse, pousse !» Mais il ne faut pas qu'on entende « Pousse, pousse, pousse !» Mais il faut savoir que le pousseur, même si on lui dit non, ça veut dire « Vas-y, vas-y !» Un peu comme une femme où tu te dis « Je te fais mal, là !» Tu vois, tu ne sais pas très bien, tu dis « Je te fais mal, là !» ou « Je te fais pas mal !»
Tu ne sais pas.
Tu ne sais pas. Voilà, et là, c'est un peu pareil, voilà.
Tu préfères qu'on dise « je t'aime » ou « j'aime ton travail » ?
Ah non, je préfère que tu me dises « je t'aime ». Mon travail, non. Non, c'est parce que « je t'aime », c'est vraiment... tu m'aimes bien en tant que tel, en dehors de mon travail, j'imagine.
Pour moi, tu dégages quelque chose, et c'est pour ça que je tenais vraiment à être là. Il y a des gens qui raisonnent en faire le bien, faire le mal. Oui. Et il y a des gens qui raisonnent en être bon. J'ai l'impression que ta quête dans la vie... c'est quelque chose. J'ai envie qu'on se rappelle que je suis un gentil. Il y a quelque chose comme ça.
Alors, je pense pas à l'idée de. J'ai envie qu'on se rappelle de. Mais bon, je suis élevé par une maman qui est extrêmement chrétienne, et j'ai été élevé avec cette mise en garde depuis que je suis petit. Hein. Avec mon frère, ma mère disait amuse-toi le plus longtemps possible. Amuse-toi. J'ai perdu mon père assez jeune, mais ma mère m'a aimé pour deux. comme elle disait, je vous aimerai pour deux. Et donc la seule, le seul critère que ma mère me donnait en disant, c'est amuse-toi le plus longtemps possible, parce que la jeunesse est courte et il faut s'amuser dans la vie, parce que ça va... Bon, toi, t'écoutes toujours ça. Mais, donc il y avait bien un mais, ne fais de mal à personne. Voilà.
Oui, mais t'as toujours envoyé une extrême bienveillance partout.
Je ne comprends pas le principe de heurter quelqu'un. Pour moi, ça n'a... Enfin, pour moi, c'est raté si t'as fait de la peine à quelqu'un. C'est pour ça qu'on me dit, tu peux dire toutes les saloperies, c'est comme Gérard, toutes les insanités, toutes les grossièretés du monde, mais je ne heurterai pas quelqu'un. Je ne serai pas... Non, je pense pas. En plus, je ne comprends pas. Donc voilà. C'est pour ça que je n'aime pas non plus l'humour qui fait du mal, qui se sert de quelque chose... Non, c'est pas dans ma nature, et ça, c'est ma mère.
Parce que même quand on regarde, quand on revient à cette arrivée près de chez vous, c'était un humour qui était violent.
Mais on s'en prenait au cinéma.
Mais voilà.
On s'en prenait à la télévision, on s'en prenait aux gens qui, justement, utilisaient les gens de la rue dans ce qu'ils avaient de plus fragile. Quand on a fait cette arrivée, avec Rémi et André, ce que nous, on voulait mettre en avant, avec nos maigres ambitions, avec notre jeune âge, c'est que déjà apparaissait la télé-réalité. Apparaissait d'aller filmer n'importe quel imbécile qui prend la parole et qu'on rend ridicule. Moi, je peux rendre n'importe qui ridicule, pour peu que j'ai un montage. N'importe qui. Je peux t'assurer que je prends un truc, je vais le monter, je le monte comme j'ai envie, et je le fais parler. Je le fais parler, je prends ce qui m'intéresse. Et là, je te fais passer pour un con, dans n'importe quelle condition. Donc, nous, déjà, à l'époque, ça nous heurtait.
Qu'est-ce qui te heurte aujourd'hui à la télé ?
Ah, je regarde plus la télévision, et c'est pas du tout une pause. Je regarde pas. C'est tout le contraire de ce que je t'ai dit. Tu vois, par exemple... d'observer quelqu'un en arrêt de bus. La télévision ne cesse de nous... nous parle déjà comme si on avait 2 ans d'âge mental. Ça, c'est déjà une première chose. Ce n'est que des choses qui sont liées à des choses qui sont données à voir immédiatement. Donc, il n'y a pas de ce moment où tu dis « Mais qu'est-ce qu'il peut bien penser ? Qu'est-ce qui a bien pu arriver dans la journée pour qu'il ait l'air si triste ?» Ou qu'il ait l'air si heureux ? Pourquoi ? La télévision, c'est tout. C'est la mort de l'imagination. Donc tu regardes ça, alors après, même le discours est complètement délitéré. Il n'y a plus rien, parce qu'il y a des éléments de langage, il y a des formules, il y a des codes de discussion. Donc un forum de discussion à la télévision, je n'en connais aucun. Qu'on ne me dise pas qu'il y a des forums de débat. Tu dis, je n'en connais pas, c'est, même ça c'est codifié. Il y a un imbécile au milieu qui dit, bon alors attendez, on va vous écouter vous, voilà, vous écoutez vous maintenant. Oui, très bien, ça c'est bien ce que vous avez dit. Et oui, c'est bien, applaudissez-le parce que c'est très sympa. C'est très bien ce qu'il a dit. Toi, c'est pas bien, vilain, drôle que je suis vilain.
Et puis il y a ce mec qui est là, qui est juste parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, donc il faut qu'il.
Voilà, et à ce moment-là, ce qu'on entretient, c'est que ce ne sont que des éléments de langage. Ça, c'est pas gentil. Tout est simplifié, alors que dans la vie, j'en reviens à mon arrêt de bus, c'est beaucoup plus complexe. Tu te dis, est-ce que même la pire des crapules, la pire des ordures, quand il sort, avant d'entrer en prison, est-ce qu'il n'a pas un tout petit geste où tu te dis, si tu ne sais pas que c'est une crapule, il a cette espèce de coquetterie de se recoiffer alors qu'il va faire, il va passer dans le tribunal, dans 40, il va prendre 40 ans à perpète, mais il aura quand même une petite coquetterie de faire... Voilà. Et la télévision, c'est tout sauf ça. Voilà. Moi, je dis, je suis très élu par les gens que je croise en train de se regarder dans un miroir. Tu vois ? Il y a quelque chose de l'ordre du... Oh, tu m'as vu en train de... Voilà. Ce petit moment où on ne peut pas s'empêcher de croiser quelqu'un qui se croise, parce que tu es pris en flagrant délit, dans le regard de l'autre, tu sais, tu l'as vu ? Il y a cette espèce d'abandon, de peur, de « Oh, j'aurais préféré ne pas être vu, que tu vois que je suis en train de... » Ce manque d'assurance, parce que c'est ça, ou de confirmation, je parle pas de l'abruti, je parle de cette espèce de « Oh, tu m'as vu en train de me recoiffer. »
Le moment où le moi intercepte le moi.
Voilà. Et c'est extrêmement émouvant chez une jeune femme, chez une jeune fille. Ça l'est encore bien davantage chez un garçon où tu te dis oh, « il essaie d'être viril, mais quand même, t'es pourri. Ça va, je suis bien aussi ou pas ?» Ou les gens qui font comme ils ont un gros ventre, hein, qui relèvent parce que sinon ça te donne des épaules. Et tu te dis « là, t'es un peu seul, quoi, tu dis. » Ça m'émeut. Donc la télévision, pour moi, il n'y a pas ça, quoi. Tout le monde brille.
Tu n'y vas plus, non plus ?
Non, j'y vais plus, non. Quasi plus, non.
Avant, t'étais toutes les fêtes, toutes les émissions.
Ouais, j'en ai fait énormément, parce qu'avant, ça m'amusait, l'idée de la performance. Ça m'amusait vraiment, hein, de voir comment ça marchait, de dire, je peux dire n'importe quoi, je peux m'approcher de la caméra, je peux Si je veux, je renverse un seau de nouilles sur ma tête. Ça va être marrant, un peu comme quand tu vas dans les premières soirées où on mange sans couvert. On renverse le spaghetti sur la table. Puis à un moment, j'ai dit, bon, ça va, j'ai compris. Il y a très vite le singe du plateau. Et puis et c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'on me dit, compte sur toi, hein, gros. Fous-moi un petit peu la patate là-dedans.
Ça, c'est déprimant.
Dès que j'ai dit, non, demandez pas de foutre la patate. Quoi. Je me rappellerai toute ma vie. C'était un débat juste avant moi. C'était deux jeunes filles qui étaient catholiques et qui avaient décidé de se convertir à la religion musulmane. Et sujet, alors déjà, tu vois, je te parle de ça il y a 10 ans, d'accord ? Donc déjà un sujet, tu dis, t'avais Tariq Ramadan, je sais plus qui était là.
Mais qu'est-ce que tu foutais là ?
Parce que c'était ce qu'on appelle les émissions, regarde, c'est la même chose encore maintenant, hein. Si ce n'est que les gueules ont changé, mais c'est pareil. Et moi, je passais en deuxième invité pour présenter Monsieur dans la table. Il dit, je ne ferai qu'une seule télé, c'était Ardisson, pour ne pas le nommer, voilà, c'était chez lui. On te fait beaucoup boire, hein. beaucoup boire. Alors, surtout ce qu'on appelle les bons clients. Donc je bois, et puis alors j'entends l'espèce de pression permanente, parce qu'on te laisse dans une pièce isolée, et tout ce que tu entends comme phrase, c'est, au début de soirée, il est en train de nous faire exploser. Enfin, ben, on compte sur toi, hein, pour nous réveiller tout ça. Eh bien, ce jour-là, j'ai dit, c'est fini. Je ne ferai plus ça. Donc, je suis allé sur ce plateau. Et la première question qu'il m'a posée, c'est, est-ce que la culotte de la princesse est aussi, je crois, une question grossière, un truc vraiment grossier? Parce que j'étais ami avec Clotilde Corot, je suis toujours. Imaginez-vous que la télévision, c'est comme un repas. C'est comme si vous m'invitiez à dîner chez vous, je ne vous connais pas. Et la première question que vous me posez à table, est-ce que la culotte de ta femme a la couleur de la merde ou du sang? Personnellement, je me lève de table et je m'en vais. Mais à la télé, on ne peut pas se lever. Donc j'ai arrêté de faire des télés, c'est pas à cause de lui. Et c'était une suite de choses, voilà. Qui fait que mais je n'en veux pas aux gens qui le font, je n'en veux pas aux gens qui la regardent. Ça m'est égal. Tu sais, la télévision, il faut arrêter de cracher dessus. T'as qu'à pas l'allumer. Hein. Moi, je l'allume pas, et puis voilà, c'est réglé. Hein.
Je reviens sur cette arrivée. Il y avait un reportage sur M6, soirée spéciale Benoît Poulvorde.
C'est comme une sorte d'une vie, un destin, comme si j'étais déjà mort.
Mais ouais, j'étais là, mais le mec mérite pas ça. Passez-lui un coup de fil si vous voulez des nouvelles, quoi.
Non, mais j'ai été con. Je vais le revivre encore là maintenant. J'ai rencontré le réalisateur qui n'était pas un mauvais garçon, que oh là là, loin de là. Et puis il est venu me voir en m'expliquant qu'M6 allait faire des portraits pour l'été de certains acteurs et qu'ils ont donné le libre choix au réalisateur de choisir la personne qui voulait suivre. Je crois qu'il y avait Sophie Marceau. Je ne sais plus quelles étaient. En tout cas, j'en faisais partie. Et comme ce garçon m'aimait bien, ça j'en suis certain, il dit, je vous ai choisi, vous. Alors moi, mon premier réflexe, c'est de dire non. Je n'ai pas envie de parler de moi, ni de ma vie, ni de quoi que ça. Mais vous n'avez pas le choix. Soit vous le faites avec nous, soit on fera sans vous.
Ils l'ont fait sans toi.
Non. Il dit, alors, le garçon, très gentil, m'a dit, vous pouvez ne pas m'aider. Il me dit, vous pouvez pourrir mon boulot, j'ai rien à cacher, donc... Après, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si je dis non, tu dis, je vous interdis? Non. Ça va encore être pire, ça veut dire, pourquoi il veut interdire une émission sur lui? J'en ai strictement rien à foutre, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur moi. Donc après, je me suis servi de quoi? Je me suis servi de cette émission pour dire, je vais présenter au moins une personne que j'aime. Dernier Gossens qui apparaît 1 minute 5 dans le truc, alors que j'aurais... Après, je me suis rattrapé, puisque j'ai fait un truc moi-même pour pouvoir présenter Daniel Gossens. Et j'ai la même chose maintenant. J'ai une journaliste qui est venue me voir il y a 3 ans et qui me dit, je veux écrire un livre sur vous. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc j'ai appelé mon agent, je lui dis honnêtement, je ne veux pas qu'on fasse un livre sur moi. Et elle dit, tu n'as pas le choix. S'ils veulent le faire, ils le font. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit, non, je ne vous aiderai pas. Si je commence à parler de ce livre, c'est lui faire plus. J'ai rien contre, rien pour. Mais je me retrouve confronté à mon âge. Je sens le sapin, quoi. Je commence à sentir le sapin.
Mais non, je pense pas que la déduction, c'est que tu sens le sapin. Je pense que tu deviens hors norme dans une société qui est de plus en plus normée, ou normative.
Oui, mais je crois pas qu'en faisant un livre comme celui-là, tu vois, si j'avais l'ambition d'écrire quelque chose sur moi, ce qui ne viendrait mais jamais à l'esprit. J'ai même fait un M. Malatin en expliquant qu'en vieillissant, les gens souffrent de mégalomanie, espèce de boursouflure de l'ego. Mais quand bien même, si je veux le faire, je ne prendrai en aucun cas sous cet axe. C'est ce que j'ai dit à la fille. Vous voulez pas plutôt qu'on fasse des fausses confessions où les gens doivent s'amuser à se dire le vrai du faux? Et au moins, tu peux t'amuser à écrire un texte où tu te dis... Parce qu'on me l'a proposé 4-5 fois d'écrire un livre. Moi, je vais bien si je trouve quelqu'un assez courageux que pour dire ça, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu vois, comme le journal d'un con. J'ai lu le journal d'un vieux con de Topor.
Totalement.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, après, on rigole, tu te dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, moi, ça m'amuserait plus de savoir, on ne sait pas où est le lard du cochon.
De créer des fausses anecdotes de
fausses
anecdotes,
voilà, il a rencontré. Alors, je parlais par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Vous devrez répondre après si c'est vrai ou pas vrai. Right? J'ai joué à un jeu de société avec Leonardo DiCaprio dans un hôtel à Paris qui s'appelle un jeu, le nom du jeu, Détective. Donc, on se met le mec se met au milieu d'une pièce avec un petit ticket. Et tout le monde, il y en a un qui a un ticket voleur, pas voleur, voilà. Et il y a un détective qui cherche. Et ça a duré 3h30. Et j'ai joué à détective. Nous n'avons pas bu d'alcool. Nous n'avons rien fait d'autre que de jouer à un jeu stupide dans un hôtel français, très grand hôtel, avec des gardes du corps partout. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
Il y avait des amis ou juste lui et toi?
Il y avait d'autres gens qui jouaient, oui.
Que tu connaissais?
Que je connaissais, oui.
Français?
Français.
Du milieu?
Je peux pas te donner plus d'indices que c'est vrai ou pas vrai. C'est vrai. Mais à côté de ça, je pourrais te dire... J'ai passé une soirée avec le Dynama.
Ah bon?
Ouais, dans le même train. Est-ce un que train c'est vrai ou pas vrai? Un train de nuit, ouais.
Couchette?
Non, je n'ai jamais su s'il avait une couchette ou pas. Mais en tout cas, oui, on a passé une demi-heure dans un restaurant.
Je pense que c'est possible.
Tu vois, au moins le livre aurait la peine. Ça vaudrait la peine d'être lu, dans les plans comme ça. Au moins plus que de dire, il est né là, il a perdu son papa très jeune, il a gna gna gna, et là, il a sa descente aux enfers, et là, il remonte... Ça, c'est sa dépression. Tu vois?
Mais ça doit être tellement casse-couille à vivre.
Non, c'est à toi de te protéger. Comment une fois que tu décides...
Comment tu te protèges de tout ça?
Je ne donne pas de suite. Tu vois, bon, le bouquin, il y en a un autre qui a utilisé tous mes interviews depuis 20 ans. Quel est l'intérêt de relire des interviews? Tu veux le faire, ça s'appelle un je ne sais pas comment on appelle ça, un bibliothécaire.
Un scribe.
Un scribe. Il a fait ça, donc il vend son bouquin, il met une photo de moi, et puis il dit 20 ans d'interview avec Poulevard. Moi, j'appelle ça un paresseux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est égal, je ne vais pas lutter contre, je ne touche pas l'argent, j'en ai rien à foutre. Strictement rien à foutre. Après, c'est pour le spectateur, pour les gens qui nous voient, qui nous écoutent. Il faut être sûr de se dire, toi, c'est pas moi qui vais aller dans C'est à vous ou à Canal pour dire, voilà, ça, c'est la somme définitive de mes pensées, de ce que je pense, de ce qui se passe maintenant. Et ça, attention, ça va trembler. Imagine-toi, au 19e siècle, il y en a eu une pétée de gens qui arrivaient avec un bouquin et qui disent Tiens, ouvre-le. Attention, c'est un brûlot. J'ai fait, monsieur Manhattan, 1500 blagues et revues dans la Pléiade. Si c'était pas une manière déjà de dire, nombre de crétins qui écrivent et qui feraient mieux de la fermer. Je crois pas qu'il y a des gens beaucoup plus sérieux qui parlent comme ça, quand même. Franchement, je ne regarde plus la télé. Tu vois des gens, tu dis, mais t'es effrayé de la prétention. J'ai vu un jour un acteur, je sais pas ce qu'il avait fait, il doit être très jeune, parce que je ne l'avais jamais vu. Mais ce mec vient de faire un film, il a déjà écrit un livre sur « J'ai été adopté à 2 ans ». Comment tu peux être déjà si sûr que les gens veulent savoir pourquoi t'as réussi à devenir acteur? Prends du temps quand même, tu vas peut-être te tromper. Mais comment le type peut s'asseoir à 22 ans en train de dire... Et c'est vrai qu'elle n'a pas été facile, ma vie. Oh non, il y a eu des soubresauts. Et ma mère me disait souvent, fais attention, Joachim, tu vas trop vite. Et c'est vrai que j'allais vite. Là, vous avez lu le chapitre sur la vitesse? C'est ça, et t'as envie de les flinguer, tu dis, mais ferme ta gueule. Ferme-la, et tais-toi. Voilà. S'il te plaît, par respect pour les autres, je ne sais pas, tais-toi. Et puis tu devrais avoir honte. Alors voilà pourquoi je ne regarde plus la télé.
Et les chaînes d'infos en continu?
Ah non, pour moi, la chaîne d'infos en continu, c'est l'abolition de... Enfin, c'est la fin de la réflexion. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de site, je n'ai pas de... Tout ça, alors je ne suis pas comme Finkielkraut, je ne suis pas totalement hermétique. Je garde un ordinateur pour aller sur les sites pornographiques. Et ça, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches. Et vraiment, et ça s'améliore de jour en jour. Et c'est gratuit. Ce serait dommage de payer alors que c'est gratos. Bon, ça, je trouve ça quand même... Ça, c'est une belle découverte, la pornographie dans l'Internet. Je me mets à la place de tous les gens qui... Si j'avais eu ça à 16 ans, à mon avis, je ne serais devenu rien du tout. Ou peut-être le type au plus gros poignet de la Terre. L'homme le plus habile de ses 10 doigts. Comment tu fais ça, Robin? Dieu merci, j'avais encore des vieux magazines où on stabilo-bossait... tu vois, les organes. Et sinon, je ne comprends pas. Donc, ce qui, moi, alors, Je vais te donner le truc. La presse en continu, c'est pour moi, je prends l'autre contre-pied, c'est une phrase en moins de
140 caractères.
Donc les gens ne se rendent plus compte des conséquences des mots. Donc on diffuse sur la, en continu, on s'en fout, c'est une sorte de soupe dégueulasse. En plus, on demande aux gens de lire en même temps qu'un autre parle. On s'en branle.
Et on se prend du choc en permanence.
Voilà, et pendant ce temps-là, tu sais quoi, pendant que tu parles, je vais annoncer que 4 enfants sont morts. Ouais, c'est vrai, 4 enfants sont morts. Et on s'en branle carrément ce qu'il y a. Et puis c'est, la bonne femme repose sa question, et blablabla. Et on n'a rien. C'est le néant. C'est-à-dire, là, on est devant. Il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, là, tu te dis, si ce n'est l'information. Moi, je peux écouter la télé, mais la regarder, non. Voilà, si tu veux t'endormir, t'écoutes la télé. Regarde, par exemple, Faites Entrer la Cuisine. Je suis un fan de Faites Entrer la Cuisine.
Et tu l'écoutes comme l'émission Monsieur X ?
Exactement. Et en Monsieur X, j'aime énormément, parce que j'aime bien... Tu les as déjà vus, les deux protagonistes ?
Oui, oui.
Alors, j'aime bien, parce qu'ils ont leur texte. Il y en a un qui chevauche un peu sur... Attention.
On est les seuls à les avoir reçus.
Bien sûr, c'est vrai.
Ah, je suis fan absolu, c'était
émission. Ah, comme... En Faites Entrer la Cuisine, tu n'as pas besoin de regarder les images. Ça commence, c'est long, 1h20. Il y a des phrases... extraordinaire quand même. Des phrases où tu dis, mais où est-ce qu'il est allé chercher cette phrase ? Quand je suis un petit peu déprimé, hop, je vais mettre le boucher de machin, le dépeceur de la brasse. Et puis ça commence tout de la même manière, puis je commence à m'endormir comme un bébé. C'est le néant. À l'image, là, on est déjà tous d'accord pour dire, ne regarde pas, Faites Entrer la Cuisine. Alors que je pense qu'il dépense énormément de budget à ce que ça ait de la gueule par rapport à toutes les autres émissions de Faits divers. Ça a de la gueule quand même. Ils essaient de faire attention. Mais tu t'en fous. Donc déjà, la télé prouve par A plus B que tu n'as plus besoin de la regarder, l'image. Tu peux te contenter largement du son. Et je ne te parle pas du nombre de films où tu peux dire, moi, donnez-moi juste la bande-son, hein, c'est bon. Hein. Ça nous coûterait moins cher. C'est 20 euros le DVD, 3 euros la bande-son. Bon, filme-moi la bande-son, les images, je m'en fous. Je connais le réalisateur pour faire ça. Filme-moi la bande-son. Et le Twitter, là, 130 mots pour dire quelque chose, je dis, enfin, ça va à l'encontre de... Donc les gens, en plus ça a des conséquences, les mots. Les gens ne donnent plus d'importance aux mots. Alors c'est tellement fondamental de se dire, c'est pas un mot pour un autre. Alors peut-être pour deux ou trois, on va dire, exceptions, les gens balancent comme ça. Alors que dans la vie, tu dois faire attention, tu dis pas n'importe quoi. Sauf si t'es dans une circonstance où tu dis, oh, je veux dire n'importe quoi. Dans un carnaval par exemple, tu vois. Bon, personne t'en voudra dans une fête de carnaval d'avoir dit, hé gros lard, bouge ton cul. Mais bon... Si en Twitter t'écris, hey, gros lard, bouge ton cul, je veux ma chope. Enfin, tous les mots ont des conséquences, même un écrivain, mais parfois 2 ans à trouver un titre. Toi, t'es là avec ta phrase à la merde, et tu fais du mal à plein de gens, ou tu n'en fais pas, ou tu fous le bordel, et les gens réagissent sur des non-événements, des épiphénomènes. Tu dis, tout le monde s'en fout de savoir si t'aimes bien le ballon. Mais c'est le problème, hein.
Il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui est comme symptomatique de l'époque, c'est le bruit. Le bruit, oui, le bruit, le bruit, le bruit.
Oui, et les ingé-sons, ils te diront comment est-ce qu'on fait pour... Comment fait-on pour installer une chaîne ? Il y avait des gens qui avaient des téléviseurs comme des mouchoirs de poche, mais en revanche, ils avaient des installations sonores. Putain, t'entendais là-bas la feuille du pommier qui tombait, alors que le gars est en train de parler, tu dis, t'as entendu, chérie ? L'écran comme ça, de quoi ? Ah bah, on entend la pomme. On a entendu tomber la pomme. Ou la porte qui fait... Incroyable, ce truc-là. À côté, ton écran est minuscule. On a tardé à agrandir les images, alors qu'on a pété dans le son. Quand tu dois localiser tes sons, le vendeur, il vient, parce que c'est tout un art, hein, il fait... Et maintenant, nous allons balancer le bruit rose. Donc, t'appuies... Eh bien, pour moi, c'est ça le bruit. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une époque où tout le monde, ce qui est logique, s'exprime. Donc c'est ça qui fait le plus terrible. Donc les gens s'expriment partout. C'est du bruit rose partout pour savoir où est-ce que je me situe par rapport au bruit des autres. Parce que c'est ça, à un moment, les gens disent, mais pourquoi tu cries ? Parce que moi, on est toujours, pourquoi tu portes tout le temps la voix ? Je dis, pas pour être entendu, pour qu'on ne m'entende pas. Je te jure que c'est vrai. Mais t'es bien obligé à un moment de crier, parce qu'il y a tellement de bruit partout. Alors quand je parle de bruit, c'est une image. Si t'as une colère là, si tu veux, t'as une colère là, t'as une revendication là, t'as un désespoir là. Et voilà. Et comme on veut tout le temps nous faire croire que nous devons tous les mélanger, ces désespoirs, ces bruits, pour qu'on puisse avoir une stéréo magique, la stéréo de l'humanité, où on est capable d'entendre tout le monde, de répondre à tout, et qu'à ce moment-là, ça nous donnera un espace d'écoute serein pour regarder les images. Eh bien, j'appelle le bruit rose, tout ce qui m'entoure, qui n'est pas lié au fait de la peine ou de ça, parce que c'est pas de ça qu'on t'intéresse. Le bruit rose, pourquoi ça fait... Il aurait pu mettre... Bonbon, bonbon. Non, mais sinon, pour le bruit, j'ai d'autres avis, mais ça ne concerne pas que le bruit, ça concerne la musique.
Mais dis-moi.
Je hais les endroits publics où il y a de la musique. Mais je connais un ami qui est beaucoup plus excessif que moi. Xavier Beauvoir. Un jour, je vais dans une pompe à essence avec lui. Et tu sais ce qu'il fait, Xavier? Il a une pince... je vais pas citer la main.
Monseigneur.
Lederman, j'ai cité. Il coupe, il trouve les fils et... Il coupe.
Ah, je le kiffe.
Ah, je te jure qu'il le
coupe. Mais je l'aime.
Il cherche le fil. Je dis, si on va se faire repérer, il va... Bon, le temps que le gars dise, il coupe, je l'ai vu. Il prend son Lederman et il me dit, il est où le baffe ? Puis t'as plus de musique dans une aile du restaurant et je dis, on a quand même pas intérêt à traîner.
Mais le pire truc qui a été inventé aussi, c'est la musique qu'ils appellent la musique lounge. C'est de la musique qui est censée te détendre quand tu parles, alors que c'est que de la...
Ouais, mais en revanche, si on réfléchit au mot, c'est de la musique qu'on doit écouter dans un couloir du lounge. Donc le lounge, c'est l'endroit où tu ne restes pas. C'est-à-dire, c'est un endroit où c'est aussi triste que le réceptionniste seul...
Il y a des gens qui achètent des CD, là.
Oui, je sais, pareil, ouais. Bouddha Bar, ouais. Le Coast... Ils ont fait, je crois, des dizaines de compiles de musique de merde. C'est même pas musique d'ascenseur, c'est de la musique de merde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est le bruit permanent. Avec... Tu te demandes, hein, parce que moi, je me suis souvent posé la question. Parfois, t'as des choristes. Il y a bien des mecs qui sont mis en studio, quoi.
Pour faire de la musique là,
oui. Mais je crois qu'il y a des ordinateurs qui sont capables de refaire la merde. Tu connais cette blague belge? Je vous la fais courte. C'est un type qui croit dans un de ses copains qui a vraiment très bien réussi. Et alors il lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait, mon vieux? Je suis tombé sur une aubaine. Je ramasse la merde de tout le pays, hein, avec des camions entiers. Je la déverse. Là, j'ai mon usine qui traite. Et tiens, viens voir, il vient visiter l'usine. Tu vois, traitement de la merde. Dac, dac, dac. Et j'en fais du beurre. Il dit, tu déconnes, mais viens, tu vas voir. Là, on va au salon de dégustation. Hop, tu viens. Tiens, prends un petit pain poilin. Hop, ils prennent un petit pain poilin. Puis en effet, sort une motte de beurre, mais magnifique. Alors ils ont visité les cuves à merde. Tu vois, sortie de stade de foot, tout, 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 tout. Et là, petit pain, mais magnifique. Il prend un petit pain poilin, bien grillé, tu vois. Et puis le mec mort. C'est bon, abstrait, hein. Mais ça sent quand même un peu la merde. Bon. Ça. C'est de la merde. C'est le lounge, je tuerais pour le lounge. Je serais capable d'abattre. J'essaie d'imaginer quelqu'un qui vienne. J'ai une... Fais-toi un disque, hein, parce que j'ai tout en lounge.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je crois qu'il n'y a même pas de titre, c'est juste des numéros.
Ce serait intéressant de rencontrer tout de même. Tu ne voudrais quand même pas me dire, mais un type qui vraiment s'intéresse, quoi. Pas en tant qu'auditeur, en tant que producteur, si, je peux encore les imaginer. Se dire, on en sort 22, ils sont foutus de reconnaître les morceaux. Mais celui qui le fait par plaisir, quoi. Avec le.
Et le journaliste spécialisé là-dedans?
Oui. En général, ils sont quasi chauves, transpirants, très seuls avec une besace. Je t'ai fait écouter Randa Randerton. Oh, j'imagine que ça va être bien. Écoute la piste 2. Pure merveille. Tu mets la piste. Et je te parle pas des voleurs qui samplent et tout. Non, ça, je pense que si tu veux me faire souffrir, tu m'enfermes dans une pièce pendant une journée avec une compil Bouddha Bar.
Et c'est quoi la musique qui te fait du bien?
Le jazz, moi, je suis un fou du jazz. Évidemment, ça fait très élitiste, ça fait très... regardez comme je suis malin. Mais non, j'ai toujours aimé... J'ai aimé beaucoup de rock. Mais le rock vient... c'est jamais qu'une espèce de... Enfin, c'est un peu comme un enfant borgne du jazz. Donc, et après, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de rock. Et du rock, je suis retourné au blues. Du blues que j'avais déjà découvert avant le rock. Et du blues, je suis retourné au jazz. Et maintenant, je n'écoute que du jazz. Je n'écoute que ça. Et en plus, je trouve qu'il y a de plus proche. Alors, je vais te faire une grande phrase, puisque c'est la dernière question, qui se rapproche du jeu de l'acteur. Parce que le jazz, c'est vraiment ça.
C'est une partition qui évolue.
Voilà, et qu'en plus, quand tu fais un set, tu peux jouer. J'étais voir un groupe il y a deux jours, et tu partages, même s'il y a une partition qui est écrite, un set de jazz, tu ne peux pas jouer avec un autre type, tu prends n'importe quel, que ce soit des duos, tout ça, si l'autre n'est pas réceptif. Donc, ses meilleures improvisations, c'est son meilleur travail, même s'il aura toujours des bases, il y a des trucs de sécurité, il le fera si l'autre en face. Il dit, putain, tu m'as fait monter là. Et la rythmique, c'est quand même fondamental chez un acteur. Avoir de la rythmique, c'est... Il y a des gens, je peux dire, arrête le métier, tu n'as aucun sens du rythme.
Et toi, il paraît que ton tempo, tu le tiens de ta maman.
Ouais, mais ça, c'est... Dieu m'a protégé. Dieu m'a donné une mère exemplaire.
Ouais. On embrasse toutes les mamans.
J'embrasse en particulier la tienne, la mienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne.
Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ClickX en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Click TV.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.